France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Bonsoir. Vous savez, je l'avais annoncé dimanche dernier, nous engageons vers la fin de ce rendez-vous du dimanche, parce qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. Et pour ces dernières émissions, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir une personnalité que j'admire, qui s'appelle Madame Joëlle Gayot, journaliste et critique théâtrale au journal Le Monde. C'est une femme que je trouve totalement habitée par la passion du théâtre et avec qui nous allons faire plusieurs émissions. Et nous allons vous proposer ce soir une conversation autour de Molière, évidemment, et en compagnie de Louis Jouvet, qui est le grand éclaireur de Molière. Oui, le grand éclaireur. Alors voilà, j'ai présenté Madame Joëlle Gayot et je suis à vous, Madame Joëlle Gayot.
Eh bien, bonsoir Fabrice Luchini, merci de m'accueillir et de me permettre de faire ce petit bout de chemin avec vous sur les terres théâtrales qui m'habitent, mais qui vous habitent également. Hein. Vous disiez que Jouvet a beaucoup parlé de Molière, il en a parlé d'ailleurs de manière assez obsessionnelle et il en a parlé de manière aussi très étrange dans un texte que vous allez nous lire. Je crois aujourd'hui qu'il figure dans le recueil qui s'appelle « Le comédien désincarné ». Ce texte, c'est le rêve du misanthrope. Les personnages du misanthrope, la pièce de Molière, attendent à l'entrée de l'Odéon les acteurs qui vont les jouer. C'est un très drôle texte, enfin drôle, un drôle de texte plus exactement, et un texte qui est pour vous essentiel, Fabrice Luchini. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi il est à ce point-là cher à votre cœur ?
Parce que... La thèse, j'allais dire délirante, mais c'est un mot inadapté, la thèse idéalisée de la relation théâtre, de la pratique du théâtre selon Jouvet, passe par la religion du personnage. Alors ça, c'est, les gens se disent de quoi il parle, religion, personnage. Jouvet fait une séparation très nette entre des psychologies à jouer et des personnages dont il ne faut pas du tout avoir la prétention de s'interposer entre eux et l'exécutant. En gros, il y a très peu de personnages dans l'univers de Jouvet. Il y a évidemment tous les personnages pour Jouvet, c'est des archétypes universels qui dépassent la petite psychologie personnelle. C'est des personnages qui sont Don Juan, Alceste, Knock, bizarrement. Alors, qu'est-ce que c'est un personnage pour Jouvet ? C'est quelqu'un qui incarne un ascendant. Et à partir de là, ce personnage est universel et l'acteur ne doit pas s'assouvir personnellement en ramenant, pour être concret, si vous jouez Alceste en mettant votre petite colère personnelle, psychologique, de votre quotidien, en commençant en disant « Laissez-moi, je vous prie, mais encore, etc. » que tu gueules sur le texte. Jouvet dit « Toi, tu nous mets ton indignation psychologique, fabriquée. Ça n'a rien à voir. Alceste vivra après toi. Toi, tu vas mourir et Alceste vivra. » C'est-à-dire que la thèse de Jouvet, c'est qu'Alceste, en quelque sorte, est éternel. Et il le dit, tu vas mourir, toi, exécutant. Mais Alceste ne mourra jamais.
Mais un personnage qui a un ascendant, est-ce que c'est un personnage qui domine du coup le comédien ou l'acteur ? Parce que là aussi, il va falloir qu'on fasse la distinction, Jouvet l'a fait, entre le comédien et l'acteur, Fabrice Luchini.
Alors, est-ce qu'il domine ? Ah ben, il doit dominer l'exécutant, il doit dominer le comédien. Je croyais que vous me parliez dominant, dominé, domino, à la Bourdieu, où tout est expliqué par la domination des méchants et des soumis, etc. Et puis le dominant devient le dominé. Alors, c'est pas dans ce sens-là que vous me parlez.
Non, je ne faisais pas allusion à Bourdieu.
Bourdieu débarque, alors là, ça a l'air d'être
très... C'est pas d'analyse sociologique.
Bon, ça a l'air d'être passionnant, Bourdieu, mais c'est pas du tout une matière pour moi de rebondir. En quelque sorte, tout en reconnaissant que Bourdieu est d'une intelligence étonnante. Alors donc, eh bien oui, il domine l'exécutant, ça c'est sûr.
Alors, je voudrais qu'on écoute ce premier texte, parce que je pense que c'est une sorte de noyau dur de l'expérience du comédien.
C'est le noyau dur mais surtout, c'est élevé à un niveau. Il faut quand même le reconnaître et le dire aux auditeurs. On est dans l'idéalisation. La vie d'un comédien, c'est pas ce que Jouvet écrit. C'est beaucoup plus médiocre, c'est beaucoup plus approximatif. Mais ce qui est merveilleux dans ce texte de Jouvet, c'est qu'il élève le niveau à un tel point. Et on peut toujours se dire, on va tendre vers ça. Et comme dirait Victor Hugo, Dieu nous aime non pas parce que nous réussissons, mais parce que nous essayons. Alors voilà ce texte écrit par Jouvet dans Le Comédien désincarné. C'est le cauchemar de l'acteur, écrit Jouvet. Voilà ce que je rêvais l'autre jour. Tandis que je m'ennuyais à l'Odéon sur les banquettes du foyer des artistes, on a affiché le misanthrope. C'est un jour de brume. Il y a près de la porte du théâtre comme un épaississement de ce brouillard, une grosse tache de brouillard plus dense. Ce sont les personnages qui sont venus. Des fantômes qui attendent devant la porte du concierge. Ils sont venus parce qu'ils ont été affichés. Au fur et à mesure qu'un acteur ou qu'une actrice passe, il y a comme un lambeau de brouillard qui le suit, happé par le courant d'air de la porte et qui monte l'escalier derrière lui. C'est le fantôme du personnage. Il pénètre dans la loge de l'acteur. L'acteur s'habille, gesticule, il croit être le personnage et voilà qu'il revêt maintenant le petit tonnelet, la culotte, la chemise et le jabot. Il se maquille, il offre son visage à la classe qui de temps en temps, comme par une fenêtre, lui donne tout à coup par hallucination un visage différent du sien, un autre personnage. Mais il revient vite à lui. Il rentre vite en lui-même parce qu'il a besoin d'un autre crayon qu'il prend sur la table. Cet étranger qui est derrière le miroir et qui le regarde. L'acteur est satisfait de croire que c'est lui. Mais c'est le personnage lui-même qui est venu se placer derrière sa glace, qui essaye de prendre corps et de lui faire signe. Ce personnage est comme le spectre de Monsieur Scrooge de Dickens. Il voudrait lui parler. Il est plein de sollicitude envers l'acteur, d'affection. Mais l'acteur ne le voit pas. Il croit être déjà le personnage. Tandis que le fantôme revient dans la loge, après s'être insinué derrière la glace, il essaye de prévenir l'acteur, de l'approcher. Mais déjà l'acteur gesticule, déjà il dit des phrases de son rôle. Il repousse le fantôme, le bouscule, le traverse, et le fantôme suit lamentablement dans les escaliers. L'acteur fait claquer ses talons rouges, manipule sa canne. Et tandis que les autres acteurs descendent à l'appel du régisseur, d'autres fantômes se glissent à leur suite. Les acteurs se disent bonsoir, s'inquiètent de leur santé, de la façon dont ils ont passé leur journée, comment vont leurs enfants. Et les personnages sont là, timides, se faufilant entre le machiniste et le pompier, esquivant l'exubérance des gestes des acteurs, cette insolence et cette voix fausse qui vont faire croire tout à l'heure au public, à ceux qui sont dans la salle, qu'ils sont les personnages, et Alceste se voit entrer en scène et le fantôme souffre, voudrait prêter sa voix, donner ses gestes à ce fantôme réel, à ce polichinelle, à ce singe, à ce m'as-tu vu qui déjà gesticule, joue de la manchette, de la prunelle et du gilet, regarde le public comme on se regarde dans une glace pour s'y admirer. Alceste et Philinte, les vrais, sont là, affligés, le long de ces coulisses, qui sont des coulisses parallèles en perspective. Derrière chaque coulisse, il y a un fantôme de personnage, et ils vivent toute cette représentation qui n'est qu'une chienlit, qu'une parodie. Ils attendent, tout le long de cette représentation, un geste juste, une inflexion, qui fasse écho en eux-mêmes, et ils ne voient que des acteurs, des comédiens qui sont leur vivante dérision. Alors à la fin, vous savez, après qu'Arsinoé est sorti, Oronte, les marquis, Célimène, quand le dernier de tous, Alceste, va partir, le fantôme ne résiste plus lorsqu'il entend l'acteur dire qu'il va chercher un endroit écarté ou d'être homme d'honneur où naît la liberté. Il ne résiste plus. Il quitte la place et s'évanouit. Plus tard, peut-être, cette nuit-là, dans la nuit de la scène,
Dans la tranquillité inquiétante de ces décors, les fantômes des personnages viendront-ils eux-mêmes se représenter et rejoueront-ils la pièce pour une assemblée de spectateurs qui seraient des purs esprits ? On ne peut que rebondir pour donner des commentaires sur cette affaire-là.
Ah ben je suis d'accord, mais les commentaires pourraient être nombreux parce que il est fou ce texte. Il est fou, mais est-ce qu'on est là dans l'expérience même, Fabrice Lucchini, de ce qui peut être chez l'acteur est un appel à la schizophrénie, au dédoublement, à aller chercher l'autre en soi.
C'est une photographie définitive des grands défauts de tous, de nous, comme, enfin de moi en tout cas, de moi comédien, c'est-à-dire le narcissisme immense. Alors je dis peut-être qu'il y a des acteurs merveilleux qui ne sont pas comme ça, mais en tout cas moi je ne parlerai que de moi. Il a photographié toutes les composantes absolument abjecte, selon Jouvet, hein, de cette saleté de vocation, cette vocation très impure. Pourquoi on fait du théâtre ? Au début, c'est uniquement « je veux être connu », disent certains mecs de notre époque, d'autres qui disent « je voudrais être regardé », tout ça. Quand il dit « c'est une photographie idéalisée, impossible à concrétiser, de ce que devrait être un comédien qui, au lieu de s'occuper de lui, au lieu de dire à son pote acteur comment vont tes mômes et tout ça, il soit dans un état de vacances totale et laisse pénétrer cette idée de Jouvet que Alceste, qui existe pour l'éternité, tout ça, on peut ne pas être d'accord, hein. Ça part d'un christianisme, si Jouvet, un christianisme conflictuel, puisqu'en même temps, une libido énorme, et en même temps, il est appelé par là et tiré par là. Donc, encore un conflit. Et en plus, il est scorpion.
Quand vous dites appelé par là, vous montrez votre ventre, et quand vous dites tiré par là, vous montrez votre.
Bien sûr.
Votre cerveau
Jouvet,
et votre tête et l'élévation.
Vous voyez, Jouvet est pris dans une contradiction très, très chrétienne, très catholique, ou très religieuse en général, peut-être pas toutes les religions. Ça part quand même d'une photographie et d'une certaine méchanceté dans le très bon sens, une méchanceté divine. Jouvet ne veut pas qu'un acteur soit ce paquet de mauvaises motivations, ce paquet de narcissisme, d'inconfort, de moi. C'est-à-dire, en un mot, il veut que l'acteur n'ait plus de moi. C'est-à-dire, il veut que l'acteur devienne un moine bouddhiste qui, par la respiration, atteint un niveau de communion avec ce qu'on appelle la puissance cosmique. C'est-à-dire, ce qui est merveilleux dans ce texte, c'est qu'il pense qu'un acteur ne doit pas être sur lui, mais doit se débarrasser de son moi. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement utopique, mais c'est pas grave. Ça, on ne dit pas qu'on y arrive, mais nous savons. Dans une représentation. On est obligé aussi de définir l'acteur et le comédien. Est-ce que c'est le moment ?
On va peut-être y arriver après, parce qu'il y a encore un extrait du comédien désincarné que vous devez nous lire.
Alors donc, ce texte, d'abord, quand même, la vie de Jouvet est très particulière, parce que c'est un homme moins doué qu'un Rému, ou qu'un Haribord, ou qu'un Michel Simon.
Pourquoi vous dites qu'il est moins doué ?
Parce qu'il est moins fort en sentiments, c'est lui-même qui le dit. Rému ne serait pas du tout capable d'écrire des trucs pareils. Rému, quand on lui a dit à la Comédie Française qu'ils allaient refaire la façade, il a été tétanisé, il a dit « on va me prendre du pognon, c'est à moi de le faire ou pas ? Je ne veux pas participer. » Tu vois, donc Rému était un travailleur immense, mais ce n'était pas du tout un intellectuel. Être un intellectuel pour Jouvet, c'est une condamnation terrible, puisqu'il pense. Et que selon lui, l'acteur ne doit pas penser, ou plus exactement, il doit penser sa sensation. C'est un peu théorique, c'est un peu abstrait, surtout qu'on ne parle pas qu'à des comédiens. Là, on parle à un tas de gens, auditeurs. Donc il faut faire que je fasse attention, même si c'est les dernières. Donc, Jouvet parle d'un truc totalement idéalisé. Et pourquoi c'est passionnant ? Parce que d'abord, on voit un Jouvet très doué pour la littérature, mine de rien. Et puis, il te met en contact avec la possibilité que tu dois t'oublier pour savoir qu'Alceste va venir. Tu te rends compte, ce personnage qui est très beau quand il dit « l'acteur ne le voit pas » et le personnage dit « attends ». Ils écoutent, ils aimeraient voir une intonation qui leur rappelle leur être. Mais non, l'acteur est pris dans son ego. Et c'est cette dialectique entre l'absence d'ego et la religion du personnage.
On va essayer de revenir à cette idée du moi dont vous avez dit dans une précédente émission, Fabrice Lucchini, qu'il était incertain, le moi du comédien est incertain, sur la distinction comédien-acteur. Mais je voudrais qu'on termine avec le comédien désincarné, sinon on n'arrivera pas à entendre la scène d'ouverture du Misanthrope que vous devez aussi lire dans cette émission.
C'est aujourd'hui l'acteur doit savoir, c'est ça ?
Oui.
Ah oui, ça c'est un texte étrange. Aujourd'hui, dit Jouvet, l'acteur doit savoir ce que c'est que le théâtre. Il doit en avoir une idée. Il ne peut plus, comme aux bienheureuses époques précédentes, pratiquer son métier en l'ignorant. L'acteur de cinéma est déjà plus savant que lui. C'est extraordinaire. L'acteur de cinéma est déjà plus savant que lui. Il a déjà une technique codifiée qui change tous les ans, comme les modes de couture, et plus souvent que celle du théâtre. Mais celle du théâtre modifie elle-même l'acteur sans qu'il ait besoin d'être instruit autrement que par sa sensibilité. Il faut aujourd'hui qu'il tire lui-même ses règles et ses lois et qu'il se fasse à lui-même sa doctrine. L'acteur aujourd'hui est à ce degré appauvri et ignorant. Les époques qu'il vient de traverser ont été si veules et si peu dominées par les poètes qu'il n'a plus de technique et qu'il joue indifféremment Victor Hugo, Musset, Marivaux et Molière et Corneille avec une sorte de ton et de diction passe-partout qui rappelle la sauce standard dont on use dans les wagons-restaurants pour accommoder les nourritures les plus diverses. Alors évidemment, là, c'est prodigieux. Je suis obligé d'interrompre. Il pense que l'acteur n'a pas été nourri par des grands poètes pendant un nombre énorme d'années et il dit qu'il a une diction passe-partout alors que tout écrivain demande une diction différente. Claudel, ça peut pas être Molière. Corneille, on fera peut-être un exemple. Modestement, mais Molière ne demande pas la même diction que Corneille. On fera un exemple concret pour que les auditeurs en aient une idée. Il faut que l'acteur sache qu'il y a un métier de théâtre, une vocation de théâtre, une profession de théâtre, et que le cinéma n'est pas une fin, mais seulement un mode d'exécution dramatique où il peut utiliser ses talents, mais non pas les découvrir et les nourrir. C'est la grande thèse qu'on n'apprend rien, selon lui, ailleurs qu'au théâtre. Il n'y a que le théâtre qui nourrisse, il n'y a que le théâtre qui y fortifie, c'est-à-dire où l'on ne gagne pas matériellement sa vie, mais où l'on peut s'enrichir de valeurs morales, professionnelles, que le cinéma ne peut aujourd'hui ni offrir ni donner. C'est très important, cette idée qu'il y a un artisanat qui s'appelle le théâtre, et puis il y a une arrogance capitaliste, évidemment, du cinéma. Il est dangereux pour l'acteur ou le comédien ou l'actrice de méconnaître ces considérations. On peut encore jouer l'enfant prodigue au théâtre. C'est un apologue qui ne peut pas s'appliquer au cinéma. Alors il faut que l'acteur comprenne qu'il a un rôle dans le théâtre qui dépasse tous ceux qu'il a joué ou qu'il jouera jamais. Il a un rôle plus beau que tous et dont ceux-ci s'enrichiront. Il s'agit des devoirs qu'il a vis-à-vis du théâtre, des auteurs classiques, des auteurs modernes, des poètes, du public, de cette religion du personnage, des connaissances dramatiques. Proprement dit, il faut qu'il comprenne que le temps est passé de l'égoïsme facile d'autrefois. Que s'il ne veut pas s'en rendre compte, eh bien c'est lui le premier qui est menacé. Même s'il réussit demain dans cette autre voie nouvelle, il n'y a de vrai art dramatique d'apprentissage pour lui, qu'au théâtre. Alors évidemment, c'est très perturbant.
C'est un vrai Cassandre, hein ?
Ben oui, mais ça veut dire qu'il n'est pas sympathique, parce qu'il y a plein de gens qui se passent de théâtre.
Malheureusement.
Il y a plein de gens qui n'y vont pas, et puis il y a plein d'acteurs qui vivent très, très heureux.
Vous vivriez heureux sans théâtre, vous ?
Non, mais moi, modestement, c'est là où le peu que j'ai appris, c'est évidemment au théâtre. Je ne veux pas dévaloriser le cinéma qui est merveilleux. Il faut marcher sur deux jambes. Le cinéma, aucun théâtre n'aura la capacité d'une pénétration dans ton âme que peut produire un gros plan acté par un artiste. Quand quelqu'un t'aime, et je veux dire te pénètre, c'est un peu excessif, mais pénètre un secret que tu ne veux pas donner, le cinéma... Attendez, qu'au théâtre, moi je joue en ce moment à la Porte Saint-Martin, mon état intérieur, il n'est valable et vécu que par l'éloquence vocale. C'est-à-dire que le théâtre, c'est un métier concret, technique, vocal. Un comédien, c'est d'abord une voix. Alors qu'au cinéma, tu peux avoir aucune voix, aucune diction. Ça n'a aucun intérêt, une diction au cinéma.
Peut-être on va faire un petit détour par de la musique.
Oui.
James Brown.
Alors, à votre avis, vous allez me demander pourquoi.
Pourquoi ?
Parce que c'est de la libido, le théâtre. C'est érotique. Vous voyez, moi, je suis parti d'un physique très moyen. Et je plaisais pas tellement au début, je plaisais plutôt aux garçons, mais j'étais pas non plus rejeté, hein. Et puis, j'ai commencé à faire du théâtre il y a 40 ans, et il y a quelque chose qui s'est passé au niveau des spectatrices.
Je ne te dis pas qu'il y en avait 50 qui étaient devant le guichet, comme Mick Jagger, ce n'est pas à ce niveau-là. Mais il y avait des propositions, beaucoup de propositions. Et je me suis dit, eh bien parce que la scène érotise, parce que la voix, parce qu'un acteur c'est une voix. Je me suis lancé sur un truc que j'aboutis pas très bien, peu importe. Donc pourquoi James Brown? Parce que c'est de la libido, James Brown, c'est de l'organique. Eh bien, il y a quelque chose à voir avec le théâtre. Vous savez, on parle souvent dans les cours de théâtre que la diction, le vocal, la puissance sonore, elle part du hara, c'est-à-dire elle part du périnée, elle part d'un point qui est le contraire de la gorge. Si tu pars dans la gorge, il faut partir donc du bas du ventre, ce qu'on appelle les Japonais le hara, très difficile à concrétiser. Bon, en voilà un qui n'a pas dû aller au cours de théâtre longtemps, mais qui en est une incarnation. Vous avez vu le « Ah !» What, mon dame, ça part toujours du très bas, quoi. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut jouer Molière comme ça, mais en tout cas, allez-y, Joël.
Mais alors, est-ce que ce n'est pas justement la preuve de l'incarnation absolue, ça, Fabrice Lucchini? Moi, je ne m'explique pas ce mot
«
comédien désincarné » qui, pour moi, frôle carrément le paradoxe.
Le paradoxe, oui. Ouais. Alors, il vous demande de vous désincarner quand vous avez la responsabilité de témoigner d'Alceste, du misanthrope, pour ne pas vous incarner vous, j'allais dire Robert Lucchini, mais de vous incarner vous dans Alceste. Il faut que vous disparaissiez pour que Alceste ne souffre pas comme dans ce que nous venons de dire. Donc il faut se désincarner. Mais quand on joue du classique, mais quand tu es au cinéma ou que tu joues une comédie de la biche, il n'y a aucune raison de se dépersonnaliser. C'est uniquement dans les moments de grand Hamlet, bizarrement Knock, Don Juan, Alceste, le Tartuffe, mais pour les autres, il faut s'incarner. Alors, la définition, rapidement, l'acteur témoigne de lui-même, dit Jouvet. Lino Ventura est un acteur génial. Et Lino Ventura n'a pas essayé de travailler sur la vacance intérieure pour jouer Molière. Il ne l'a pas fait. Même Gabin n'avait plus envie de faire du théâtre. Il a fait du musical extraordinairement bien. Mais ce sont des grands acteurs. Mais ils n'ont pas tendu à être comédiens. Mais Jouvet dit, dans une représentation, on est à la fois acteur et par la grâce, on peut être comédien. Personne aujourd'hui peut vous dire qu'il rentre sur scène et qu'il n'est que comédien. Il est aussi acteur. Mais il faut que cet acteur envahisse pas le texte pour que le public soit pas envahi de l'ego de l'exécutant et qu'il entende. Le but, c'est de produire des images dans le public. Grâce à quoi ? Grâce à ta voix. La voix, c'est une pratique de l'éloquence. Moi, je veux pas du tout avoir l'air du trissotin, du théoricien, parce que des méchantes langues diraient « Il en connaît un bout, mais qu'est-ce qu'il est à chier ?» Évidemment, on n'a pas à théoriser. Et maintenant, on en arrive à...
À la lecture. De la première scène, pas en entier, mais en partie... Du misanthrope.
Oui, parce que... Alors, pourquoi cette scène ? Parce
qu'il a un Alceste.
Ben pourquoi ? Ben parce qu'elle produit un retentissement éternel du 21e siècle, du 17e, du 18e, du 19e, parce qu'il y a deux composantes. Il y a un homme malin, intelligent, qui s'appelle Philinte, qui n'a pas de mythologie de la sincérité, qui sait s'adapter, qui n'est pas chiant du tout. Comme dirait mon analyste, c'est Philinte, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il a été trop bien analysé. Il n'y a plus d'irrationnel dans Philinte. Il sait mentir, il sait flatter, il produit pas d'hystérie. Et puis, il y a un personnage qui s'appelle Alceste. Ce personnage, pendant le 18e et le 19e, a été très mis en avant par les rousseauistes, ceux qui pensent que la société est remplie de mensonges. On pourrait presque dire que, pendant un long moment, Alceste a été vécu avant Jouvet comme l'homme qui avait raison. L'homme qui dit « la société est dégueulasse, elle ment ». Alceste était l'homme de gauche pur. Je caricature énormément. Et Philinte, c'était le raseur de droite. Bon. Et puis Jouvet est venu. Et Jouvet a fait quelque chose d'absolument essentiel. Il a montré que Alceste était pitoyable, poignant, attachant, mais incroyablement comique par ses excès et par une forme d'immense bêtise. Et pour bien jouer à Alceste, il ne faut pas le raisonner comme un personnage de Jean-Jacques Rousseau. « Oh, il dit la vérité et les autres sont des salauds ». Non, alors, vous connaissez la scène. Pourquoi je l'adore, cette scène ? Parce qu'elle met en scène celui qui ment et celui qui ne ment pas. Tu sais, à un moment, il en a marre, Alceste. Il en a marre, Philin. Tu fais « Merde, vous nous faites chier !» En gros, évidemment, il ne dit pas ça, mais mon prof disait toujours « Mettez des mots vulgaires pour vous nourrir » et atteindre le sentiment, puis après vous mettez les mêmes Molières. Vous racontez plein d'histoires, écoutez, oh, mais vous voulez un grand mal à la nature humaine, dit Philinte. Vous voulez un grand mal à la nature humaine ? Et Alceste répond, oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Si on réfléchit, c'est étonnant. Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Alors Philinte dit, mort, tout le monde y passe ou il y en a quand même ? Non, tous ! Non ! Allez général, dit Alceste. Non, allez général, et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être méchants, complaisants. Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Là, on est vraiment dans le cœur d'Alceste. Hein. Il va parler, il va illustrer cette phrase merveilleuse de Balzac. L'intrigue est supérieure au talent parce que l'intrigue de rien, elle fait quelque chose alors que le talent souvent empêche les gens de vivre. Bon, là, il va l'illustrer. De cette complaisance, on voit l'injuste excès pour le franc scélérat avec qui j'ai procès. Au travers de son masque, on voit à plein le traître. Partout, il est connu pour tout ce qu'il peut être. Et ses roulements d'yeux et son ton radouci n'imposent qu'à des gens qui ne sont point d'ici. On sait que ce pied plat, digne qu'on le confonde, par de sales emplois s'est poussé dans le monde et que par son sort, de splendeur revêtue, fait gronder le mérite et rougir la vertu. Quelques titres honteux, qu'en tout lieu on lui donne, son misérable honneur ne voit pour lui personne. Nommez-le fourbe, infâme, et scélérat maudit, tout le monde en convient, et nul n'y contredit. Cependant, sa grimace est partout bienvenue, on l'accueille, on lui rit, partout où il s'insinue. Et s'il est par la brigarant à disputer sur le plus honnête homme, on le voit l'emporter, tête bleue. Ce me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Et parfois, il me prend du mouvement soudain de fuir dans un désert, l'approche des humains. Bon, je l'ai dit de manière absolument caricaturale, quand j'étais totalement à chier, mais la réponse de Philinte est merveilleuse, parce qu'il dit « Mon Dieu, oh, tu nous emmerdes, mon Dieu !» Oh, qu'est-ce que tu peux être casse-bonbon ? Des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine. Moi, je le jouais pour montrer mon irritation sur les gens qui ont le portable en stéréo dans les restaurants. Et j'arrêtais pas de me dire la phrase de Philinte. Des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine. Vous êtes d'accord qu'on a intérêt à la répéter toute la journée ? Des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine. Hein, avec bel été, avec fausse manip, avec on va pas se mentir, on a intérêt de se dire « Des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus des vieux âges heurtent trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps sans obstination. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. J'observe comme vous sans chose tous les jours qui pourrait mieux aller prenant un autre cours. Et quoiqu'à chaque pas je puisse voir paraître en courroux comme vous, on ne me voit point être. Et là, c'est une phrase tellement géniale de Philinte. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Lui, face au portable, il ferme sa gueule, il dit « J'apprends à souffrir, et je crois qu'à la cour, de même qu'à la ville, mon flegme est philosophe, autant que votre bile, et là, il rentre dans l'organique de Molière. Mais ce flegme, monsieur, qui résonne si bien, ce flegme pourrait-il ne s'échauffer de rien ? Et s'il faut par hasard qu'un ami vous trahisse ? Que pour avoir vos biens, on dresse un artifice ? Ou qu'on tâche à semer de méchants bruits de vous ? Verrez-vous tout cela sans vous mettre en courroux ? Et lui répond, oui, je vois ses défauts dans votre âme murmure, comme vices unis à l'humaine nature. C'est à ancrer dans la nature humaine, ces vices-là, dit Philinte. Et mon esprit, enfin, n'est pas plus offensé de voir un homme fourbe, injuste, intéressé, que de voir des vautours affamés de carnage, des singes malfaisants, et des loups pleins de rage. Vous avez vu, là, c'est très théorique, c'est très raisonné. Et la réponse d'Alceste est géniale. Je me verrai trahir, mettre en pièces, voler sans que je sois. Morbleu, je ne veux point parler, tant ce raisonnement est plein d'impertinence. Ma foi, vous ferez bien de garder le silence. Contre votre parti, éclatez un peu moins et donnez au procès une part de vos soins. Je n'en donnerai point, c'est une chose dite. Alors, Philinte lui dit, mais qui voulez-vous donc? Qui pour vous sollicite qui je veux? La raison. Mon bon droit, l'équité, aucun juge par vous ne sera visité. Non, est-ce que ma cause est injuste ou douteuse? J'en demeure d'accord, mais la brigue est fâcheuse. Non, 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 j'ai résolu de n'en pas faire un pas. J'ai tort ou j'ai raison, ne vous y fiez pas. Je ne remuerai point, votre parti est forte et peut par sa cabale entraîner, il n'importe. Vous vous tromperez, soit, et là c'est génial, j'en veux voir le succès, mais j'aurai le plaisir de perdre mon procès. Je verrai dans cette plaidoirie si les gens auront assez d'effronterie, seront assez méchants, scélérats et pervers pour me donner un juste, et je sens que j'ai dépassé le temps. Donc non, voilà.
Vous êtes bien Fabrice Lucchini, mais je pense qu'on va en reparler, et on reparlera aussi de la manière dont tout votre corps se met en mouvement, puisqu'on est appelé à se revoir la semaine prochaine, je crois, lorsque vous dites ces mots de Molière. On arrive au terme de cette émission ?
Eh ben, écoutez, en plein milieu du Misanthrope, c'est pas mal.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Oui, je remercie pour cette émission. Évidemment, évidemment, Madame Joëlle Gayot, T'as une telle fraîcheur alors qu'elle va au théâtre tous les soirs. Xavier Pestugia à la réalisation. Corentin Rouchy à la technique. Thierry Dupin pour la musique. Et évidemment, Emmanuelle Garacino à la coproduction, parce que sans elle, évidemment, il n'y aurait pas d'émission. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, à la semaine prochaine. On va continuer sur Molière.